I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Bonjour, bienvenue dans Ça déraille, l'émission vélo qui fait flamber X, ex-Twitter. Et oui, parce qu'on va parler de Remco aujourd'hui et les avis sont partagés. Battu par Jurgensen sur Paris-Nice, vous l'avez vu. Est-ce qu'il fait partie de la cour des grands? Je rajoute sur les classements généraux, bien sûr. Parce qu'en face, son concurrent lors du prochain Tour de France, Jonas Vingegaard, a laminé, et je pèse mes mots, tout le monde sur Tirreno. Est-ce qu'après sa démonstration, il n'a pas déjà gagné le Tour de France? Oui, c'est la question qu'on se posera en deuxième partie. On parlera en toute fin aussi de Milan-San Remo, le premier monument de la saison qui arrive donc ce week-end. Et ce sera dans les paris, messieurs. Et tout ça va être disséqué avec mon ami, mon très cher Jérémy Salakian de retour.
C'est moi?
Oui.
Ah, bah bonjour, bonjour à tous.
Et qui a pris la pluie? Il est mécontent.
Non. Je suis mécontent parce que je suis arrivé en bas de chez toi. Le code de l'immeuble a changé déjà depuis un mois et je ne l'avais toujours pas.
Je t'ai fait patienter une minute top chrono sur la montre.
Mais t'as fait patienter Théo au moins 10 minutes de plus.
Théo qui a pris la plume et qui est venu se réfugier ici parce qu'il a peur. Oui, parce qu'il a été menacé sur X. Du coup, donc ça va. Est-ce que tu te sens bien entouré avec que des gars costauds, quoi?
En sachant qu'il y a eu beaucoup de menaces cette semaine sur le groupe Ça déraille. Ce qui explique pourquoi il n'y a plus beaucoup d'intervenants.
Alors, j'explique pour le chat, pour ceux qui nous découvrent. En fait, c'est simple. Ça parle beaucoup trop pour pas grand chose dans votre groupe, qui est normalement un groupe de travail, de pseudo-travail. J'ai mis
ça. Ça n'a jamais été.
Oui, non, mais un petit peu, il y a quelques petites infos.
Il y a eu une pluie de carton jaune.
Voilà, il y a une pluie de carton jaune depuis, on n'entend plus personne. Une mouche volée. Bon, j'espère quand même qu'on va vous entendre sur donc ce Paris-Nice. On va débriefer d'abord Paris-Nice, ensuite Tirreno. Il y aura aussi on attaque pas, et sûrement un quiz à la fin.
Eh bien, oui.
Et ben voilà le quiz. Mais avant ça, on va assurer tranquillement le tempo.
Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, hein.
Bon, le tempo, c'est ce qu'a fait Remco dans la dernière étape de Paris-Nice, d'ailleurs, pour Jurgensen. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la course, on va la résumer très simplement. Jurgensen, donc, l'Américain qui remporte ce Paris-Nice devant Remco Evenepoel et d'autres coureurs qui sont un petit peu plus loin,
évidemment.
Faut dire
le franco-américain.
Le franco-américain qui vit à Nice, en effet, il y a un bel article dessus, comme quoi il avait gagné à domicile. D'ailleurs, j'ai des petites questions sur Jurgensen après, derrière, mais je vous les poserai ensuite. Donc, Remco battu, c'était quand même son premier objectif de début de saison, gagner ce Paris-Nice. Jérémy, est-ce que c'est une déception de voir Remco à cette place? Est-ce que quand tu as regardé Paris-Nice, est-ce que tu as été déçu?
Alors, quand j'ai regardé Paris-Nice, j'étais déçu de voir que Remco n'ait pas tenté jusqu'au bout de renverser le classement général, mais lui n'avait pas l'air déçu. Lui avait l'air satisfait, il prend son étape. Il était, semble-t-il, impossible de décrocher Matteo Jurgensen, donc tout dépend du regard que tu veux avoir sur la course. Au moins, Remco a essayé. Il a abdiqué très vite, mais il était confronté à quelqu'un, semble-t-il, d'au moins aussi fort.
Il y a eu beaucoup de critiques sur la stratégie de Remco. Bon, il s'est fait piéger lors d'une étape précédente. C'est là, d'ailleurs, où il perd peut-être le Paris-Nice, mais Théo va peut-être dire autre chose. Mais dans cette dernière étape aussi, de rouler au tempo et ne pas tenter autre chose. Théo, est-ce que tu trouves que c'est seulement les erreurs stratégiques de Remco qui ont fait perdre la course, ou est-ce qu'il n'était pas assez fort pour renverser
Jurgensen? Non, pas nécessairement. En revanche, c'est comme Jérémy l'a dit, tu as deux façons de voir. Est-ce que tu as le verre à moitié plein ? Ça veut dire qu'en fait, il est venu à Paris-Nice en disant « Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire podium et de gagner une étape. »
Ouais.
Ce qu'il a finalement réussi.
Plutôt bien fait, oui.
Bon, c'est un peu petit bras aussi de se dire cet objectif-là quand on n'a pas les deux autres monstres que sont Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sur une course par étape. On est censé dire que Remco Evenepoel est le troisième. Donc, quand tu t'avances sur une course par étape d'une semaine, tu es censé normalement briguer la victoire. En revanche, c'était un Paris-Nice qui était quand même compliqué, qui était pour moi beaucoup plus relevé que Tirreno en termes de difficultés, que ce soit météo ou en termes de course à gérer également par les profils, parce que Tirreno était sur des déroulements un peu plus classiques. En revanche, dans les jeux d'intox, dans les jeux d'impression, parce qu'on est là aussi sur ce combat qui va se dérouler en juillet, pour moi, il n'a jamais donné vraiment l'impression d'être au-dessus de Jorgensen. Et en fait, quand tu brigues le podium du Tour, voire même dans l'objectif peut-être de battre Pogacar ou Vingegaard, tu te fais battre par un équipier de Jonas Vingegaard qui sera un équipier en juillet. Pour moi, c'est peu inquiétant.
C'est là la question du jour, parce que quand on a vu ce qu'a produit Jonas Vingegaard en Italie, Remco, il est censé vouloir jouer les premiers rôles sur le Tour de France. Et même si on est encore au début de saison, il y a du rodage, tout le monde n'a pas la même préparation, se faire battre comme ça, Jérémy, sur un Paris-Nice, est-ce que ce n'est pas un petit peu inquiétant? Parce qu'est-ce qu'il est vraiment dans la cour des grands, capable de remporter les classements généraux face, bien sûr, à tout le monde?
Bon, la question telle que tu l'as posée, visiblement, a fait des remous hier sur Twitter.
Bon, Frank Forever, si jamais il nous écoute sur X, nous ne sommes pas des anti-Remco, on se pose des questions, et je pose la question à Jérémy.
Alors, ma réponse, si on doit considérer le cyclisme dans sa globalité, est-ce que Remco Evenepoel est dans la cour des grands?
Évidemment.
La réponse est oui. Évidemment, ça ne fait aucun doute, si tu dois garder 5 ou 6 coureurs comme ça à la volée, il est dedans matin, midi et soir. Maintenant, sur les grands tours, et là, je pense que Théo a amorcé le début d'une réflexion, c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas le mettre au même niveau que Pogacar, on ne peut pas le mettre au même niveau que Vingegaard non plus. Il a gagné une Vuelta, mais il n'y avait aucun des deux. Il y avait Roglic qui a disparu au bout de 2 tirs de course.
Il y avait Henrik Maas.
Oui, Henrik Maas. Mais pour l'instant, sa valeur sur les grands tours... complètement à la ramasse, mais sa valeur sur les grands tours, c'est un petit peu une inconnue, elle reste à prouver. Alors oui, Remco Evenepoel sera sur le Tour de France avec l'ambition d'un bon classement général, mais je crois qu'on l'a dit, on l'a suffisamment répété ces derniers mois, peut-être pas pour gagner dès la première année. Déjà, il n'a pas forcément l'équipe. Dezio, Vingegaard me semble à l'heure actuelle quasiment intouchable. Et puis Remco Evenepoel va aussi devoir passer par cette phase d'apprentissage. Ça a beau être un prodige, il ne faut pas en attendre trop tout de suite. Donc laissons-le se développer. Moi, je suis sûr qu'il gagnera le Tour un jour, mais peut-être pas cette année.
Est-ce qu'on ne le voit pas un petit peu trop beau, Théo, sur les classements généraux? On l'a vu sur la dernière Vuelta. Il a vite plié bagage lors d'une étape. Grosse étape de montagne, notamment au Tourmalet, là battu par Jorgensen, donc un équipier, tu disais, de Jonas Vingegaard. Est-ce qu'on ne le voit pas un petit peu trop beau? Est-ce qu'on directement, on se dit, quand il y a un Remco, il est censé dominer les autres, mais est-ce qu'il n'est pas, par exemple, au niveau des coureurs comme ça qui briguent des courses d'une semaine? On l'a vu battu par Sepp Kuss sur la Vuelta, voilà. Est-ce qu'on ne le voit pas trop beau?
Pour l'instant, pour moi, il est un étage en dessous des deux autres.
Ouais.
Mais ce qui est normal, tellement les deux autres phagocytent les classements généraux. Pour moi, il est dans l'étage de Ayuso, de Roglic. Pour l'instant, il joue la place de 3, on va être honnête, de ce qu'il montre pour l'instant. Alors après, il y a une éclaircie, c'est qu'en termes de préparation, il a un peu déplacé cette préparation pour monter en puissance jusqu'en juillet, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'altitude encore cette année. Par rapport à certains de la Jumbo, c'est complètement
inédit.
Ouais. Il l'a dit. Donc pour moi, c'est l'éclaircie vraiment que je vois. Mais pour moi, il est dans le deuxième rideau. Si on peut parler de rideau, parce que voilà, tellement les deux autres sont ultra dominateurs.
Même question, Jérémy. Deuxième rideau aussi pour l'instant, attention, parce que tout peut arriver. Ça se trouve, je ne connais pas le programme par cœur de Remco. Il fait le tour du Pays Basque avec Jonas Vingegaard, je crois.
Peut-être
à ce moment-là, il pourra lutter. Oui.
Et c'est un coureur qui court partout et qui a aussi envie de chasser les classiques. Il a déjà deux monuments.
Sur les courses d'un jour, il est au sommet.
Il est au sommet avec Pogacar, avec Van Der Poel. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et hier, les débats qu'on a eus sur Twitter, nous, on ne les a pas eus, on les a lus surtout. Non, mais il y a une certaine forme de logique aussi. C'est vrai que quand on dit est-il dans la cour des grands, ça peut faire tiquer. Il est dans la cour des grands, certes. Après, il y a eu des arguments du style son palmarès. Si on prend le palmarès, le plus grand coureur du peloton actuellement, c'est Chris Froome, ou Peter Sagan qui reviendra sur le Tour de Hongrie. Donc on ne doit pas s'arrêter au palmarès, on doit regarder la production à l'instant T. Mais moi, j'aurais la même réponse que Théo. C'est vrai que pour l'instant, il est un petit cran en dessous, et à lui de nous faire mentir, comme il m'avait fait mentir sur la Vuelta il y a 2 ans. Moi, j'ai toujours dit, Remco Evenepoel, c'est avant tout un coureur de classique. Ça, il l'a prouvé sur les classiques, qu'il était exceptionnel. Maintenant, sur les grands tours, Il m'a surpris sur la Vuelta, à lui de nous surprendre sur le Tour de France, mais pour l'instant, il n'est pas au niveau des deux autres.
Il ne faut pas sous-estimer aussi, en début de saison, les jeux un peu d'intox, d'impression qu'on peut laisser. Ça comptera aussi en juillet dans un duel qui se joue vraiment à très peu de choses, physiquement, en cas de niveau proche de Vingegaard. Et pour moi, il n'a pas laissé non plus un souvenir impérissable cette semaine. Ce n'est pas une mauvaise semaine pour Remco Evenepoel, ce n'est pas une bonne semaine non plus.
D'accord. Après, il y a quand même un élément sur lequel il faut quand même se pencher. C'est la place de Paris-Nice dans la préparation d'une saison.
Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a David Gaudu, deuxième l'année dernière, lutter avec un Pogacar.
Il y a
après,
ça, mais
compliqué.
C'est pas forcément là où je voulais en venir. Il y a une vingtaine d'années, alors certes, aussi obscure qu'elle fût, la période Armstrong, tu ne voyais pas Armstrong, tu ne voyais pas Ulrich, tu ne voyais pas les protagonistes du Tour aller batailler sur Paris-Nice, et ils étaient pourtant à 100% de leur forme en juillet. C'est venu après, c'est venu avec Alberto Contador, c'est venu avec les Sky qui ont essayé de faire un premier pic de forme à Paris-Nice et un deuxième à partir de la fin du Dauphiné pour être au top sur le Tour. Peut-être que Remco Evenepoel, avec l'envie de briller jusqu'à Liège-Bastogne-Liège, a aussi lissé sa préparation. Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. On ne sait pas comment il s'est préparé.
Oui, il y a la préparation, donc on aura peut-être des premières explications, je dis, sur le Tour du Pays Basque. Dernière petite question là-dessus, parce qu'on passera à autre chose, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées sur Paris-Nice, c'est juste par rapport à son équipe. Il l'a dit après Paris-Nice, je crois, il a dit ça sera différent, notamment sur le Tour de France, parce qu'il y aura Mikel Landa. D'ailleurs, il a demandé aussi Julien Alaphilippe qui sera sur le Giro. Ouais,
alors ça, peut-être. C'est très étrange.
Oui, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est ça, en fait, qui manque un petit peu aussi, parce que l'erreur stratégique, on va dire, de ne pas suivre Jurgensen, ou alors de devoir faire le tempo, d'être un petit peu tout seul contre tout le monde, peut-être qu'avec un équipier du style Landa, qui est quand même de haut niveau normalement, c'est ça qui peut changer un petit peu la donne pour lui.
Oui, on peut dire que la Soudal Quickstep n'était pas à son paroxysme, mais de l'autre côté, on peut dire que la Jumbo Visma Lisebike, pardon, n'était pas non plus l'équipe type qu'elle aurait pu aligner. Donc c'est ça le problème, en fait.
Ouais. Et Jérémy, là-dessus,
Au niveau d'équipe, j'ai déjà dit, hein, je pense que la Soudal cette année n'est pas encore suffisamment armée pour accompagner Remco vers les sommets.
Même avec Julien, parce qu'il veut, veut Julien, Alaphilippe.
Même avec Julien, enfin.
Je sais pas, t'as vu le Tirreno de
Julien? Oui, ben je l'ai vu. Enfin, j'ai vu le Tirreno.
Non, puis compare surtout avec les deux énormes armadas. Oui, Ayuso, Ayuso qui fait deux. T'as Del Toro.
Oui,
Del Toro, c'est exceptionnel quand même. Première année pro, ce qu'il fait, c'est fou. Ouais. Et puis derrière, t'as encore toute l'armée qui était sur Paris-Nice.
Ouais, mais regarde, on a eu ce débat la semaine dernière. T'as beau accumuler tous les outsiders et les potentiels top 10 du monde. Regarde Almeida à la fin de son Paris-Nice.
Ah bah Almeida, c'est une défaite.
Almeida, tu le mets en juillet, il ne sert strictement à rien.
Toujours derrière les groupes pour essayer de rattraper.
Mais non, mais ça peut même pas être un équipier, puisqu'il ne peut pas mettre pour l'instant de ce qu'il a montré depuis le début de sa carrière en haute montagne. C'est-à-dire qu'il lisse son effort, mais ça veut dire que du coup, il ne sert à rien dans les tempos, dans les tactiques d'équipe.
Ouais. Bon, par contre, à la Visma, il y a assez peu de doutes. Hein. Tout le monde marche. Hein.
Oui, ça va. Tout ça va marche. Plutôt bien.
On verra. Jurgensen a dit en début de saison que c'était son principal objectif et qu'ensuite, il essaierait de voir. Alors évidemment, la Visma Lisebike sur les classiques, tu peux mettre 4 leaders. Et en fonction des circonstances de course, ça peut sourire. Mais en revanche, après, il va plutôt se glisser dans un rôle d'équipier, soit autour de Van Aert, soit autour de Vingegaard en juillet.
Ce qui est logique, mais t'as Vingegaard, tu donnes un comparatif des équipes, t'as Vingegaard qui va se présenter au Tour de France avec, à ses côtés, le vainqueur de la dernière Vuelta, le vainqueur du dernier Paris-Nice.
Oui,
c'est pas les mêmes, ça fait deux équipiers. Non, mais
c'est rien, c'est
sans compter le champion
Coty,
d'Europe,
pas Coty,
etc. Voilà.
Oui,
donc, bon. Oui, en termes d'équipe,
le champion d'Europe qui était quasiment devant sur l'Estrade Bianche sur une classique à 3600.
Mais oui, mais
sixième d'Estrade.
D'ailleurs, on nous a reproché, Théo, en plus c'était la semaine dernière, de dire ouais, quand c'est UAE qui performe, on dit c'est incroyable, c'est magnifique, et quand c'est Visma, on crie au dopage. Alors je dis tout de suite, je crois qu'on n'a jamais parlé de dopage pour la Visma ou pour la UAE. Alors du coup, on n'a aucune preuve. En tout cas, vous n'en avez pas? Non, vous avez quelque chose dans vos poches? Non, toujours pas. Tiens, Jurgensen, vainqueur logique, Théo, finalement, sur cette semaine de Paris-Nice.
C'est celui qui a montré le plus de choses. On peut se poser de la question de sa stratégie sur la dernière étape, mais finalement il était sûr de ses jambes, donc
même chercher des petites secondes de bonification.
Ouais, là où on peut peut-être faire des six, c'est sur le chrono par équipe. Peut-être que la Soudal aurait pu, s'il n'avait pas plu et vu les jambes de Remco ce jour-là, peut-être qu'ils auraient pu prendre un petit peu plus de temps, mais au final, je suis pas sûr que ça change grand-chose.
Petite question, Jérémy. Tiens, c'est pour toi. Tu parlais d'Armstrong. Jorgensen a dit, après le pré-Paris-Nice, a dit on est là, fait partie de la génération, avec Brandon McNulty, hein, qui a performé aussi troisième de ce Paris-Nice, de la génération qui a regardé, qui a été inspiré par Armstrong.
Il allait pas dire les villes.
Beaucoup lui ont tombé dessus. Est-ce que tu comprends? Parce que ça, c'est une petite question. Est-ce que tu comprends qu'on dit « Ah, il peut pas dire ça et tout ». Quand on était gamin, nous, par exemple.
C'est extrêmement maladroit, mais moi, je suis le premier à dire que je suis venu au vélo par Armstrong.
Ah oui, c'est
quand
pour ça
il était maillot jaune. Et aujourd'hui, tu descends dans la rue, tu interroges au hasard des randoms qui n'aiment pas le vélo. Tu leur dis, citez-moi un cycliste ou un ancien cycliste, je suis persuadé qu'Armstrong arrive numéro 1.
Oui.
Donc, il a inspiré tant de monde. Alors oui, certains étaient dupes, d'autres ne l'étaient pas. Et on a vite compris que ce n'était pas naturel. Mais les faits sont là. Certains sont venus au vélo grâce à lui, et si c'est le cas de Matteo Jorgensen, il va pas te dire effectivement
je suis venu pour une capi ou
pour les paymeurs.
En fait, j'ai trouvé très dur les critiques parce que pareil, moi aussi j'ai regardé, j'étais pas fan d'Armstrong, mais j'ai regardé aussi par rapport à cette star, et le dire en fait, ça veut pas dire cautionner ce qu'il a fait, c'est ça en fait.
Il était pas obligé de le dire parce que forcément, ouais, avec tout ce qui se trame en ce moment, les suspicions autour d'un tel et un tel, tu viens te dire ouais, moi c'est Armstrong. Non, tu dois pas dire ça. Tu dois
comme
pas
lui
dire. Mais est-ce que tu peux lui reprocher d'être sincère? Après, voilà, il te dit bon, t'es mon idole ou c'est lui qui m'a inspiré. Si c'est le cas, c'est le cas.
Gravissime.
C'est pas gravissime. Oui. C'est maladroit.
Oui. Bon, moi en tout cas,
bon, c'est comme ça.
J'ai trouvé qu'on lui est tombé dessus un petit peu facilement. Nous, on a été peut-être inspirés par des Français.
Oui, mais tu sais comment
Richard
ça marche, Twitter.
Richard Virenque, on adorait nous. Richard Virenque, quand on était
jeunes. Oui, moi aussi, j'adorais Richard Virenque.
Romain Bardet, Thibaut Pinot, ils sont venus au vélo avec cette figure-là, malheureusement. Après, ils ont pris leur distance.
Même si telle insulte plein gré, encore une fois je le répète, bon a priori là,
mais tu sais comment ça se passe Twitter, tu dis Remco fait-il partie des grands, t'as 55 messages en 24 minutes.
Ouais, mais grâce à ça, ça fait parler.
Ah bah ça fait parler.
Pour finir cette petite page de Paris-Nice, oui, et Jorgensen, ça montre aussi le savoir-faire de la Visma Lease the Bike dans la préparation des courses par étapes. Parce que oui, certes, Matteo Jorgensen avait gagné le Tour de Man la saison dernière, mais là, première course où on l'attend vraiment.
Il est déjà
marche,
bon
quoi.
Sur les classiques, en montagne, il est déjà très fort. Vraiment, c'est ce que j'ai marqué, mais c'est un petit peu le remplaçant de Roglic. Ils ont perdu Roglic, j'ai l'impression qu'ils ont déjà trouvé, en tout cas, le succès. Oh, bon, c'est vrai que Roglic, c'est encore un autre niveau, et d'ailleurs, on va en parler de Primoz Roglic. Ça y est, c'est le moment. C'est la déception, un grand là. Théo, pour toi, ce Paris-Nice, c'est le plus grand coureur qui a le moins brillé.
Ouais, parce que c'est son. J'ai regardé un petit peu, c'est son pire résultat en course par étapes
depuis 2018.
J'ai regardé. 2017, même, il me semble.
C'était un Tour de Pays Basque où il était blessé. Je crois que c'est
Ouais, alors après, il y a le Paris-Nice où il tombe en 2021 sur la dernière étape.
Ah, ça, j'y étais.
Bon,
magnifique.
On la met un petit peu de côté parce qu'il était en jaune en plus, donc il aurait pu gagner. Mais ça fait 7 ans qu'il n'était pas arrivé sur une course World Tour, soit en gagnant le général, soit en gagnant une étape. Là, il y a zéro pointé de ce côté-là. C'est même assez inquiétant au niveau du fait de ne pas être acteur à un moment donné de la course, surtout. Ce qui incite pas à l'optimisme non plus, c'est que sur le contre-la-montre par équipe, en termes d'osmose collective avec la Bora, il y a quand même des choses à dire, et je crois qu'il a fait passer des choses d'ores et déjà. Vlasov, en plus, qui commence à faire les troubles faits.
Ça, on s'y attendait. La déception de la saison.
Voilà.
Bah, écoute, pour l'instant, je suis pas dans le vrai, mais il a pas non plus renversé des montagnes. Hein. Il a quand même.
Oui, bon.
C'est correct ce qu'il fait.
On en parlera à la fin de l'année, on sait comment ça se passe.
On fera les comptes à la fin de l'année.
Non, mais quand tu débarques dans une nouvelle équipe, tu as un petit peu besoin d'assumer ton leadership. Oui. Inley, finalement, il fait un Tirreno qui est plus que correct, en étant certes au deuxième étage de la course, mais en étant très présent. Roglic, il arrive déjà dans une équipe avec pas mal de leaders.
Il faut qu'il fasse
faire attention quand même. Hein.
Et sa place aussi. Roglic, pour toi, déception. T'en as vu d'autres aussi
Mais c'est la déception numéro 1.
Oui. Dixième
au début de la course.
Général.
Oui, puis c'est déjà heureux de finir dixième, vu sa but la dernière étape. Bon, il a débranché les fils sur la dernière, il était frigorifié. De toute façon,
la dernière étape était un chantier monstrueux.
C'était un chantier, mais de toute façon, pour Roglic, que tu fasses 4, 10 ou 25 après, si tu veux, voilà, c'est pas du tout le souci. Déception numéro 1, c'est normal, puisqu'en début de course, on s'interrogeait, est-ce que ce sera Remco, est-ce que ce sera Roglic? C'était du 50-50. À l'arrivée, il y en a un qui fait deuxième à 30 secondes, il y a l'autre qui est aux fraises. Mais le plus inquiétant, et là-dessus, je rejoins Théo, c'est qu'à aucun moment sur ce Paris-Nice, tu as senti qu'il ne pouvait peser sur la course. Au Mont-Brouilly, c'est Remco qui prend ses responsabilités dans le final pour accélérer un petit peu. Lui, il prend une cassure, il prend 2 secondes. On l'a toujours senti dans la passivité. C'est pas anormal non plus de voir que Vlasov joue sa carte dans ces conditions-là, parce que si Roglic avait présenté des garanties, Vlasov il serait resté à ses côtés, on peut lui taper dessus, mais à l'arrivée Vlasov, bah, il a fait sa course.
Alors, c'est pour ça que ça relativise aussi la semaine d'Evenepoel. Quand tu,
ça relativise
quand
tout.
Tu fais le duo.
Et puis ça, ça relativise aussi la préparation de Primoz Roglic où visiblement tout le monde disait bah, il est super affûté, moi le premier je suis tombé dans le panneau. Bon, bah on va attendre des confirmations. Ça ne veut pas dire qu'il sera à la rue sur les Ardennaises. Je crois qu'il a inscrit la Flèche Wallonne et Liège à son palmarès. Son palmarès, oui, pour Liège, mais surtout à son programme.
C'est pas anodin pour moi.
Je confirme.
Ouais, c'est pas anodin parce que ça veut peut-être dire qu'il lui faut un nouveau bloc de course pour se rassurer.
Ouais, bah c'était sa rentrée. D'ailleurs, il était pas en pleurs à la fin de Paris-Nice. Hein.
Non, mais on rappelle que l'année dernière, avec la Visma, il se pointait sur une course.
Il gagnait. Ouais, une étape comme Montbrouilly, c'était vraiment normalement des...
Changement d'encadrement, changement de staff, changement de tout.
Oui, changement de tout. Ouais.
Changement de tout. On sait que la Visma, ça offre pas les meilleurs salaires du peloton, mais derrière, l'encadrement, il est au millimètre de chez millimètre. Tu sais.
Et on sait pour qui rouler. Là, c'est vrai qu'avec Vlasov, on sait plus trop avec qui...
Peut-être que ces petits pourcentages de perdus, malheureusement, pèsent aussi sur le malus.
Le malus
Visma quand on quitte.
Bon, on va finir par les bons et les mauvais points de ce Paris-Nice, hein, parce que bon, on voit Mathias Kelmoze, je regarde un peu le classement général, pas mal. Egan Bernal, on l'a vu très bien, il a un petit peu reculé sur la fin, mais il est 7e du général.
Bon, très bon point. Hein.
Est-ce que le bon point de Paris-Nice, ce serait pas tout simplement Paris-Nice?
Parce que tu as trouvé, t'as aimé la course.
Bah, quand tu regardes la dualité.
Non, mais après, de l'autre côté.
Entre Tirreno et.
On en parlera après, mais bon. Voilà, je sais pas. Après, il y a Olaf Koy aussi qui a été très bon.
Ouais,
en termes de sprint.
Bien, ouais.
Et très, puis après, je
Pedersen aussi. Hein. Puisque Pedersen, il ne score pas. Mais Pedersen, il est le coéquipier numéro 1 de Chelmoze.
Et, et il fait des gros relais.
Il est sacrément fort cette année, Pedersen. Hein, attention.
Ouais, peut-être qu'il va rentrer dans la cour des grands sur les
classiques. Bah, sur les classiques, pareil. Moi, je le mets dans les grands. Alors, peut-être un tout petit peu en dessous des autres. Non, mais là, il fait vraiment.
Ah, bon, bah, on va faire des tier list, c'est ça qu'on dit. Hein,
comme ils font l'after foot, ils font des chapeaux.
Ah, ils font des chapeaux, on va faire des chapeaux.
Voilà.
Ouais, bon,
on va faire comme les autres.
Oui, bah, nous on copie, hein, tu sais. non, souvent on est copié. Donc c'est bon, après, j'ai rien d'autre à dire par rapport aux déceptions. Il y a Gaudu aussi, peut-être. Pour Arnaud Démare, je ne veux pas lui taper dessus, ça a été très compliqué dans les sprints, il n'a même pas réussi à en faire un vraiment. Gaudu.
C'est un des pires Paris-Nice pour les Français depuis.
Le premier, c'est Paré-Peintre, 14e, qui s'est lui aussi.
C'est compliqué. Hein.
Qui a perdu beaucoup de temps sur la dernière étape.
La dernière étape, il l'a mis sur Strava. C'est tombé dans une descente sur un virage gauche que tout le peloton connaissait. Et finalement, il y en a qui, semble-t-il, ne connaissaient pas suffisamment bien la route. Oui, les Français dans leur globalité. Il y a aussi la team DSM aussi qui a passé une semaine compliquée. Ils étaient que deux sur le podium à la dernière étape.
C'est quoi la meilleure place sur une étape d'un Français?
Ouf, bonne question.
Il doit y avoir un Sandy Dujardin 6.
Il y a un Turgis.
Bon, il y a Burgodo quand même qui a animé la
Sandy Dujardin 9e.
Regarde, même avec le nouveau barème,
ça marche pas non plus.
Ça marche pas.
Donc, je suis en train de regarder.
Là aussi, c'est un vrai problème, je trouve, sur les courses par étapes.
Je compte pas
les
le
grimpeur sont vraiment pas très
je compte pas le chrono par équipe, 12e Turgis. Ah ouais, je crois que c'est Sandy Dujardin qui fait 9e sur une étape. Ah, Paris-Peintre, 6e à la colle sur l'eau. Voilà. Mais c'est vrai que oui, ça a été très compliqué. Bon, on va pas revenir sur David Gaudu et tout qui a chuté. Donc après, derrière, c'est vrai que c'est plus compliqué. On ne sait pas exactement comment il se sent actuellement, mais il a abandonné avant la fin de ce Paris-Nice. Donc très compliqué. On l'a compris. On va essayer de rattaquer. On attaque pas. J'essaie un truc. Bon.
Attaque de Pierre Rolland, encore une personne ne réagit.
Il va falloir bosser les transitions là, hein, parce
que ça n'a pas vraiment marché. Hein.
C'est moisi.
Personne n'est venu à moi. Vous m'avez laissé dans.
Non, mais t'as attaqué à un moment où tout le monde a besoin de reprendre son souffle.
Oui, j'ai
t'en as mis une trop forte. Bah, voilà. Tu voulais du soutien, t'es parti tout seul.
Appelle-moi Jonas. du coup, alors.
L'humilité, c'est leur patra. Hein.
J'avais plusieurs choses à vous dire. Alors, j'ai cette histoire avec cette course en Espagne amateur. Vous avez vu avec 130 abandons. Sur les 182 coureurs, suspicion de dopage pour les coureurs qui sont partis parce que évidemment il y avait un commissaire qui est arrivé. Donc alors juste pour dire quelque chose, ça arrive malheureusement plus souvent qu'on ne le croit chez les amateurs qui sont moins contrôlés et qui
surtout en Espagne où il y a eu une rasade d'enquête dans les médias espagnols le mois dernier pour remettre en cause l'intégrité des plus hauts dirigeants de l'agence antidopage espagnole. Et ça rentre dans ce cadre-là.
Petit point quand même, parce que j'ai vu aussi beaucoup de choses qui m'ont déplu sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Quand un footballeur français célèbre se fait pincer, pour les grands médias nationaux, si on pouvait éviter de mettre l'émoji cycliste à côté quand il y a un coureur qui est convaincu de dopage, un joueur, pardon, ce serait bien aussi qu'on tape pas toujours sur les mêmes. Alors là, effectivement, c'est pas une bonne pub pour le cyclisme, mais il n'y a pas que dans le vélo, et le vélo prend le problème à bras-le-corps, en tout cas plus que les autres sports. Donc voilà, c'est toujours l'éternel problème.
Oui, en effet. Donc voilà, petite parenthèse fermée. On a aussi le déroulé de la Vuelta féminine. Je ne sais pas si tu as vu.
Oui, enfin, à 2 mois de la course, c'était quand même assez.
Ouais, mais attends, d'habitude, ils font ça plus tard.
Non, mais c'est quand même dommage, parce que c'est une épreuve majeure du calendrier. Le Giro est sorti, le Tour est sorti très en amont, et la Vuelta, il faut attendre M-2. Certaines équipes l'ont déploré. C'est le cas de Stéphane Delcourt à la présentation de FDJ Suez. Ça y est, enfin,
en Espagne, tu manges tard, t'as les profils tard.
Ouais. Mais non, mais c'est dommage, tu peux pas vraiment organiser de roco.
Les coureuses nous le disent souvent, en plus, ils nous disent, ouais, c'est difficile de se préparer pour le Giro. C'est le cas aussi, hein, de dire, bah, comment tu peux faire la saison, comment tu peux cibler une saison si tu sais même pas quel parcours tu vas avoir. Mais bon.
Non, mais c'est bien, au moins c'est sorti. C'est un beau parcours, par contre, qui laisse sa chance à tout le monde, avec une belle arrivée au sommet. Donc, non, plutôt attrayant.
Et alors, autre chose, la type me le dit, mais je l'avais noté, le nouveau maillot de Decathlon. Vous l'avez vu ou pas? Attends, je peux vous le montrer.
On a eu une discussion très animée dans les escaliers de l'appartement de Johan Fritz.
Parce que Johan Fritz, habitant au 58e étage,
avec un superbe ascenseur.
On a fait le podcast dans le podcast. Et à 2 étages de l'arrivée, j'ai entendu le souffle de Théo qui m'a susurré. Il reste encore un étage.
Alors du coup, bah, tu peux revoir si tu veux.
Non, alors on est d'accord sur le fait qu'il est très joli, mais
comme
que c'est
Israël,
mais que c'est pas un cadeau pour les vues hélico.
On mixe Israël. Je savais pas qu'il y avait une fusion entre Israël.
Ouais, mais parce qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui a fait les. Ouais, c'est parce que t'as les manches blanches qui est du même côté avec un bleu un peu plus.
Oui, il y a les manches vertes
sur le côté. Ouais,
les manches vertes quoi.
Bon bah bon courage Jérémy et Théo.
Oui, bah bon courage à tout le monde et même aux suiveurs, pas qu'aux commentateurs. Hein, quand tu vas voir un Alpecin et un Groupama qui vont attaquer avec un Movistar, tu vas être dans la même panade. Bah maintenant, faudra ajouter Israël et AG2R.
Trop bleu, tu le bleu quoi.
Après, t'as plus de chances de voir Félix Gall ou O'Connor que Chris Froome devant dans les.
Oui, mais Chris Froome dans la cour des grands, d'après ce que j'ai lu.
Oui, et surtout un ami de Sadera.
Bah oui, là, il y a les deux intervieweurs en chef.
C'est vrai qu'on était là tous les deux. Bah non, c'est un ami.
Là, on est allé à Salamé, Christophe de Chavannes. Donc.
Mais toi, tu fais pas le sniper, non, c'est ça, tu fais le sniper.
J'aurais pas cette prétention.
Ah, d'accord. Dernière chose, inquiétude pour Delhi. Je dis ça parce qu'il a dit qu'il n'irait pas sur Milan-San Remo, mais entre temps, il a dit quand même qu'il irait sur Denain, la Bredene classique. Inquiétude, oui, non, tu dis oui.
Oui.
Bah, pas pour les grandes classiques, on attendait quand même assez fort et j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Hein.
Bah, cette blessure au genou, quand tu vas te taper des pavés, c'est pas là où il faut avoir mal, quoi. Donc, clairement, alors je trouve ça quand même intelligent. En fait, on sait pas vraiment si ça va très mal ou si c'est plus de la précaution de l'enlever de San Remo. Si c'est de la précaution, c'est très bien joué. Et dans ce cas-là, je suis pas sûr que d'aller à Denain ce soit une très bonne idée non plus. Mais ça, c'est encore sujet à confirmation. En revanche, c'est pas la meilleure période pour être touché.
Pas mieux.
Non, bah pas mieux. Simplement, même si ça va bien pour Arnaud Delis, s'il n'est qu'à 90 ou 95%, il sait qu'il ne pourra pas jouer avec Van Der Poel, avec Pogacar, avec tous les acteurs de San Remo qui sont préparés spécifiquement pour cet objectif. Donc, c'est plus raisonnable d'aller sur des courses entre guillemets moins relevées, même si le plateau cette semaine en Belgique sera quand même assez réjouissant.
Tu le commandes, c'est pour ça que tu.
Non, pas Denain, Bredene, ouais.
Ah, mais c'est pour ça.
Pas Denain, non.
Bredene, s'il te plaît.
Bredene, pardon. Bah, selon
attention, parce que James, il va arriver. James, il va arriver dans le chat. Il va arriver comme ça, le prof de toutes les langues sur Terre.
Non, le prof, c'est James. Mais tu sais qu'il y a une prononciation selon si tu es flamand ou si tu es wallon. C'est comme de Ghent. Tu peux dire de Rent ou tu peux dire de Ghent.
T'es plus flamand ou wallon.
Selon le sens du vent.
Bon, j'espère que t'as été italien. Les transitions, elles sont magnifiques la semaine dernière. Ouais, puisque. Voilà, on a vraiment des bilingues. Puisqu'on va parler de Tirreno Adriatico dans Allumer la Mèche.
Allez mon petit, on en remet là, on en remet.
Alors,
Allumer la Mèche, c'est une nouvelle rubrique.
Depuis le début.
depuis le début
de cette saison 4 de Stade Rennais. Ouais.
J'écoutais d'un œil.
Oui. T'écoutais avec l'œil en plus. Allez. C'est super ça, comment dire. Résumé, je vous fais un résumé très simple de Tirreno. Vingegaard, il attaquait. Il gagnait. Voilà, terminé.
Oui, alors tu occultes quand même une partie capitale de Tirreno qui ne s'adresse pas au coureur du classement général, mais c'est que Philipsen a été battu. Et il a été battu deux fois.
Tu veux commencer avec ça ?
Bah allez, oui.
Commençons.
Parce que Vingegaard, qu'est-ce que tu vas dire ? Il est plus fort, il a gagné. Voilà, bon, on bah terminé. Maintenant, parlons.
Attention à Sanremo pour Milan.
Ouais, parce qu'il est très très fort. Non, mais surtout parce que oui, Milan Sanremo, c'est ça.
Ouais, oui.
Ok.
C'est la semaine.
Oui,
des
bah, là aujourd'hui, c'est magnifique. Non, mais juste une petite chose. En plus, Philipsen a rajouté. Je crois qu'il a parlé dans la presse, je ne sais plus laquelle. Il a dit j'ai besoin d'être un peu mieux entouré. Vous n'avez pas entendu ça?
Non, il est en renégociation pour son contrat.
Bah voilà.
Ça c'est le jeu.
Il a pas exactement dit ça.
Je n'ai pas la déclaration.
Il a dit je vais rentrer dans mes 4 meilleures années et j'ai besoin d'une équipe qui me
fait confiance. J'ai besoin de l'équipe idéale. Je me retrouver dans un bon cadre.
En revanche, je pense que c'est un jeu d'agent pour faire évidemment monter les enchères et ça c'est le jeu. En revanche, pour parler sur le fond, quelle autre équipe qu'Alpecin de Koenig peut lui offrir ce qu'on lui offre?
Arkea, pour en mettre.
Par rapport aux noms qui ont filtré UAE, c'est son ancienne équipe. Maintenant, c'est all-in sur le classement général pour essayer de détrôner Vingegaard. Donc, il ne retournera probablement pas à UAE, même si la somme est conséquente. Après, une équipe comme Lidl Trek, j'aurais pu te dire oui, mais maintenant, il y a le principal rival de Philipsen, qui est monstrueux.
Bora, aucun intérêt.
Bora, c'est pareil, il y a une armée de grimpeurs, donc je ne sais pas.
La seule belle idée, c'est Tudor. Mais pour moi, Tudor, c'est un peu trop fragile pour l'instant. Je trouve que ça marche bien collectivement. Je trouve qu'ils ont des garçons rapides. Ils ont un train qui est correct pour Arvid de Klein, parce que c'est pas un hasard que Arvid de Klein se mette à gagner des belles courses.
Bah c'est Tudor
parce
qui a
que
mené,
les Zillard, les Rick Ploymers, etc., c'est quand même très bon. C'est une équipe qui monte en puissance depuis 2-3 ans. Ils ont commencé à 10 coureurs, c'est ce que Yanis Wazar disait cette semaine. Ils se sont développés en vitesse grand V quand même, dans une progression qui est linéaire et constante. Oui, dans 2 ans.
Au niveau du train, pour l'instant, je pense que c'est difficile de faire mieux que Jonas Rickard et Mathieu Van Der Poel. Le problème, c'est que Philipsen, il n'est pas dupe. Il sait très bien que Mathieu Van Der Poel, le tour cette année, ce ne sera pas l'objectif numéro 1 et il ne sera peut-être même pas au départ. Donc il se dit, si je n'ai pas Mathieu Van Der Poel, j'aurai qui ? Ils ne vont probablement pas faire venir Caden Groves pour faire le poisson pilote. Donc il se dit, par rapport au train de la Bora, notamment, puisqu'on parlait de la Bora, qui a quand même un super poisson pilote et qui a montré avec Welsford en début de saison qu'ils étaient capables de prendre en main tout ça. Et il aura peut-être à rougir de la comparaison. Et puis au niveau du salaire, il n'est peut-être pas non plus au niveau des meilleurs du monde. Donc il se dit, il y a peut-être moyen de faire mieux.
Et je pense qu'il n'y a pas que la dimension du sprint qui est importante pour Philipsen. Parce que rappelez-vous, quand il est arrivé en Belgique, la réputation qu'il avait, c'était plutôt d'être le prochain Tom Boonen. C'est-à-dire d'être certes un sprinter, mais aussi d'être capable d'être performant sur les classiques.
Peut-être qu'il a un peu perdu en voulant jouer les classiques cette saison.
Il a pas perdu. Il fait deux de Roubaix, il gagne 4 étapes sur le tour.
Je veux dire que cette saison, peut-être qu'il a travaillé plus spécifiquement.
Oui, ça, on sait pas comment
ça peut-être, mais même dans le choix de sa future équipe, je pense que ça peut compter. Et peut-être le fait d'avoir Mathieu Van Der Poel dans son équipe est aussi une épine dans le pied. Non pas de Doumbé, mais de
Philippe. On fait tous les sports.
La culture avant tout.
Oui.
Non, mais c'est vrai que ça peut être une épine dans son pied, mais ça peut être aussi un avantage, parce que cette année, sur Paris-Roubaix, on a déjà annoncé chez Alpecin qu'on essaierait de privilégier
Roubaix, un garçon comme Philipsen, il peut être protégé pour dimanche, pour Sanremo, par exemple, dans une équipe sans Van Der Poel.
Alors, il pourrait, mais là,
j'ai l'impression
là,
que
là samedi,
pas
ça sera
Van Der Poel. Donc, c'est pour ça que sa réflexion, elle va...
Non, mais sa réflexion, elle s'entend. Par contre, le problème, c'est que là, ses déclarations, elles font un petit peu tâche. C'est pas la bonne semaine. Parce qu'il aurait sorti ça n'importe quand l'année dernière, tout le monde aurait dit, ah ouais, il a raison, cette semaine... Bah, le statut de numéro 1 est un petit peu contesté. Il l'a dit lui-même après sa victoire quand il déboîte Merlier. J'ai pas travaillé le sprint, c'est le talent, etc. Quand tu gagnes, il n'y a pas de souci. Toutes les déclarations, elles peuvent passer. Mais quand tu commences à buter un petit peu, mais tu passes tout de suite pour quelqu'un de hautain. Donc il va falloir tout de suite regagner, essayer de se remettre en confiance et prouver peut-être dès samedi sur Milan-Sanremo qu'il est capable d'un petit peu plus. Oui, c'est le samedi.
Tout va bien. De toute façon, les suiveurs du cycliste le savent parfaitement.
Bah, Anthony Nicolas regardera la rediff dimanche.
Après. Donc on a fini cette partie Philipsen et Jonathan Milan, hein, on l'a répété.
On n'a pas parlé de Vingegaard.
Justement, on y va. Vingegaard donc, qui a remporté Thierry Neuvas-Atico avec 15 minutes 35 secondes d'avance sur la concurrence hors taxe. Juste, première question, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus fort ou c'est moi ? Ou alors il est de plus en plus fort plus tôt, Jérémy ?
Bah, si tu compares ce qu'il nous avait proposé l'année dernière à la même période sur Paris-Nice, il est nettement plus fort. Non, est-ce qu'il est plus fort que sur le tour, sur le chrono? Non, il est toujours au
Oui.
même niveau, mais l'adversité n'est pas capable de lutter quand il n'y a pas Pogacar. Déjà, Pogacar a du mal, alors quand tu envoies les sbires, avec tout le respect que j'ai pour Juan Ayuso et pour Isaac Del Toro, oui, il n'y a pas photo.
Tu vois, on parlait de l'impression de Pogacar sur l'estrade et l'écart avec les autres, c'est le même sur les
C'est le
courses par
même
étapes
massacre.
avec Vingegaard.
C'est du massacre.
Ouais.
Massacre à la
Bah,
tronçonneuse.
c'est
Voilà.
surtout et encore le deuxième jour sur le Monte Petronio,
Alors là, c'est l'italien,
mais
d'habitude, c'est Jérémy.
je sais plus.
Alors, je n'ai pas sous les yeux le nom,
Mais
mais je vais aller le
bref,
chercher.
certes, il attaque, mais tu sens qu'il est en contrôle
Ah oui.
quand le trou est fait. Et clairement, s'il lui arrive rien en termes de perte de temps sur la première semaine, sur les étapes piégeuses, même avec une tactique d'équipe, quand on voit la Visma Liseback derrière, parce qu'on ne peut pas dire que c'est non plus une des quatre.
Montepetrano, d'ailleurs, je viens de
Petrano, pardon.
vérifier. Non, mais en fait, ce que je remarque, c'est que Jonas Vingegaard est en train de martyriser la concurrence, de montrer que c'est lui le patron. Peut-être d'ailleurs un peu trop tôt,
On
ça on
était dans
verra
les jeux
peut-être.
d'impression de tout à l'heure.
C'est peut-être un peu trop tôt pour le Tour de France, mais quand on voit Remco battu sur Paris-Nice, quand on voit Roglic un petit peu dans les choux dès le début, même si c'est encore une fois, c'est que le début, attention. Quand on voit Pogacar qui va aller faire le Giro avant de faire le Tour de France, mais je sais pas, est-ce qu'on a. Il y a moins de suspense en arrivant au Tour de France. Est-ce qu'il y aura, je sais
Moi, je
pas, est-ce qu'il
pense
y
que
aura
les
moins
autres équipes ont même
d'excitation?
je pense que les autres équipes ont même intégré la différence.
Bah, même les autres le disent. Je suis le premier des. Qui est, je sais plus qui a dit ça. C'est qui est, je suis le premier des humains, un
C'est
truc comme ça,
Ayuso qui a
derrière
dit
Ayuso, ouais.
ça,
Ça
TikTok.
aussi, c'est une déclaration
Oui,
qui a
bah...
inspiré. Bravo, hein, monsieur
Ah,
Ayuso.
j'y peux rien, je ne fais que répéter.
Et il a raison, oui, ils ont déjà abdiqué. Mais même Pogacar a abdiqué en allant sur le Giro. Il admet que ce sera quasi impossible de déboulonner Vingegaard. Donc autant s'assurer un nouveau grand tour, un maillot rose, et puis la saison, elle sera bonne quoi qu'il advienne.
Ouais, plus Tour de Lombardie, etc. et tout, comme
Mais
d'habitude
moi, je
pour
trouve ça
Pogacar.
regrettable quand même, dans la mesure où si t'es Tadej Pogacar, tu peux avoir l'envie et l'ambition, et c'est normal de gagner les trois grands tours. Donc tu peux essayer de faire Giro Vuelta cette année, et puis laisser le Tour de France. Sauf que le sponsor ne l'entend pas de cette oreille, donc il ménage un petit peu la chèvre et le chou. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sur le Tour de France par rapport à ce Vingegaard?
Bah,
S'il vient et qu'il fait deux, ce sera quoi la plus-value par rapport à tout ce qu'il a déjà réalisé et concrétisé ces dernières années? C'est ça que je ne
rien.
comprends pas.
Faire une nouvelle fois deuxième, c'est vrai que ça, enfin, dans son palmarès, ça ne changera rien. C'est oui, c'est surtout que là, il y a la place chez UAE. Enfin, il y a des coureurs, on va pouvoir en parler, qui sont déjà très
Ah
forts
bah
et
t'as
qui
d'autres coureurs
pourraient.
qui sont capables de faire deux, oui.
Oui, voilà. Donc,
Tu peux
autant
gagner
dire
contre
que
Vingegaard, il n'y a que
Pogacar.
lui. Il n'y a
De
que
toute
lui
façon,
qui est
c'est un
capable.
débat qu'on avait eu quand l'info était sortie.
Oui, mais c'est toujours le
D'autant plus
même.
avec le parcours du tour, où tu sais que tu as ce chrono le 21e jour, ça incite pas à avoir un Giro dans les pattes non plus.
Non, clairement
Bon,
pas.
bref.
Ouais. Bon, bah pour Vingegaard, donc ça a été très fort. Autre chose, je sais que vous avez souligné deux, trois choses. Isaac Del Toro, il y a les Français aussi, on en parlera.
Del Toro,
Mais
c'est
Del
impressionnant.
Toro, ouais, Del Toro, c'est.
Oh, c'est impressionnant.
Eh ouais. Pour l'avoir commenté sur le Tour de l'Avenir l'année dernière, je l'avais déjà vu venir. Allez,
Ouais, et puis je le suivais déjà
ouais,
en
attends,
U12, hein.
en U12, mais quand il avait fait deuxième du Grand Prix Laguna au Mexique, non, mais je sais pas, c'est celui qui vous a le plus impressionné derrière, bien sûr, Jonas Vingegaard, mais ça on va le mettre de côté, vous avez compris, c'est celui
Non,
qui
mais
vous a le
moi,
plus impressionné.
il m'a plus impressionné que Vingegaard parce
Ah oui.
que l'attente n'est pas
Pas
du
la
tout
même,
la
bien
même.
sûr.
Vingegaard, tu sais qu'il doit écraser la course. Alors oui, il y avait la jurisprudence Paris-Nice à cette période de l'année, il sera peut-être pas à 100%. Bon, ça a été rapidement balayé. Mais Isaac Del Toro, qu'est-ce que tu en attends au début de la saison? Alors, il gagne tout de suite dès la deuxième étape
Mais
sur le
sur le Down
Under.
Under, si tu te dis, c'est pas surprenant parce que un mec comme ça qui débarque
Ouais, il est
des jeunes
prêt, il
années
est
à
dans
la
l'ombre,
manière de
enfin, tu
Paul Magnier, de Lampertit, t'as envie de performer tout de
vois. Enfin, t'as vu
suite.
comment il gagne?
Oui, non mais je veux dire, à la limite, c'est pas surprenant de le voir avoir envie
Oui,
d'aller
oui,
faire des
oui.
résultats tout de suite. Mais de là à ce que ça dure,
Bah oui, parce qu'on l'a
je veux
revu.
qu'à Tirreno.
On l'a vu sur certaines classiques se mettre en évidence. La Tirreno, c'est quand même une course par étape pour le tour. Il est venu avec le rôle de coéquipier. Il fait quand même une place au général.
Mais avec ça, tu vas voir qui peuvent l'emmener sur le tour.
Mais oui, alors les 8 sont déjà plus ou moins
Mais
sortis, mais c'est fait
regarde Joao
négociable.
Almeida à Paris-Nice, tu crois qu'il
Bah,
a marqué des points?
je pense pas.
Et surtout qu'en plus, pour sa première année, il ne rechignera pas à se mettre.
Bah non, on l'a
Voilà.
vu, parce que
C'est fou ce qu'il fait.
sur la première étape de montagne de Tirreno, c'est Del Toro qui tracte Ayuso sur les 5 derniers kilomètres de la montée quand Vingegaard avait 1 minute.
Oui.
Et heureusement qu'il est là. Hein. Parce que je
Ouais.
suis pas sûr que Ayuso limite autant la casse par rapport aux autres derrière.
Ouais, donc il y a eu autre chose, Jane Lay, donc on t'en parlait tout à l'heure
Bah,
par
il
rapport à
l'est,
la
c'est
Bora qui fait
encourageant.
troisième,
O'Connor,
qui
c'est
oui.
encore au niveau.
Aucun... D'ailleurs, bravo à Decathlon G2R, je vais le faire dans le bon ordre. Même pour Faith Gall, il y a eu un petit problème, mais je trouvais qu'il était quand même assez en forme. O'Connor aussi, je trouve que cette équipe, hein, même s'il a un
Alors,
nouveau
un poil
maillot,
en retrait,
plus
Faith Gall.
O'Connor que
Ouais.
Gall, hein.
Oui, mais il a eu un petit coup de moins bien, mais après, il a été présent au Montbrouilly, il était là, etc. Donc, je trouve que ça performe. Cette équipe, elle est capable de performer. Avec ces deux leaders-là, moi, je pense qu'un top 5, c'est largement réalisable sur le Tour de France, par exemple. Non ?
Oui, alors, il n'y en aura qu'un des deux. Hein. Il n'y aura que Félix Gall sur le Tour. Mais...
Oui, oui.
Oui,
je pense qu'ils peuvent faire top 5 sur les deux.
C'est l'ambition.
Peut prétendre un top 5 sur le Giro.
Giro, Vuelta, Tour de France, l'ambition. Alors, je crois que c'est top 6. Ambition, Félix Gall.
Ah oui ?
Oui, c'est top 6. Je ne me demande pas pourquoi, c'est top 6. Mais oui, oui, tout est envisageable.
Il a fait les calculs, il a fait des chapeaux aussi. Il a fait, bon, alors moi,
je crois que c'est pas lui, hein, c'est plutôt l'encadrement qui a fixé les objectifs. C'est top 5 objectifs pour O'Connor, Giro, Vuelta, ou au moins un des deux, et top 6 pour Félix Gall. Tout est possible, mais ce ne sera pas simple non plus, parce que la concurrence est là. Hein.
Pour dire le niveau de Tirreno en montagne, je crois que Pidcock sort sa meilleure perf.
9e du classement général, il était bon.
Non, mais au-delà de il l'a dit en termes de chiffres. Il sort ses meilleures perfs en montagne de sa carrière.
Ouais.
Et ça situe un peu... et il est un deuxième échelon.
J'avais oublié aussi Tymen Arensman.
Tymen Arensman.
Qui était chez Ineos. Enfin, j'avais oublié qu'il était. Il n'a pas performé pour sa première année, mais il a plutôt bien...
C'était quand même pas mal.
Mais surtout, c'est...
T'es dur, là.
C'est Kian. C'est Kian Uddebroeck qui est aussi bien présent. Tu vois, ça va être encore un coureur là, rajouté un peu.
Oui, c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu.
Super wagon là, des Avengers de la Visma. Ça, bon, voilà.
Et oui, présent, mais... pesé énormément.
Après, bon, t'as pas besoin de faire grand chose hein. Là, du coup.
Bah non, parce qu'en fait, quand Vingegaard attaque, c'est le tempo de Bentelet. Derrière, Vingegaard attaque et Uittebroeck, c'est en deuxième rideau. Et finalement, on l'a pas vu beaucoup.
Ouais.
Uittebroeck.
Là, c'est, il est là, il et progresse voilà. Lentement, mais sûrement. Et visiblement, il va travailler le chrono, d'après ce que t'as compris.
Bon, ça, c'est toujours un petit débat qu'on a. On n'aura jamais la réponse. Les Français, juste pour terminer, Kevin Vauclin qui termine dans le top 10.
Romain Grégoire, un peu plus encourageant qu'un top 5 ou un top 10. Bon, dixième.
Zinglé au fur et à mesure.
Zinglé, je trouve pas mal. Ouais.
Sur les sprints, c'est quand même.
Je trouve que ça, il a pris un petit peu de l'épaisseur, une pointe de vitesse.
Et on ne sait pas trop où le mettre. Est-ce que c'est un sprinter, est-ce que c'est un puncher et capable
En tout cas, il a nettement progressé au sprint.
Ouais, ça c'est clair. Marie, pour vraiment. Les top 3 comme ça, c'est.
Non, mais
Vauclin,
c'est encourageant parce que ça reste un top 10 de World Tour.
Ouais, mine de rien, pour les Français en ce moment, c'est le meilleur.
Même pour ton équipe, c'est des petits points, certes, au classement UCI, mais voilà, puis ça met en confiance. C'était sa première vraie adversité à 100% parce que les courses par étapes de Kevin Vauclin, malheureusement l'année dernière, c'était un petit peu.
Il a chuté, malheureusement.
C'était pas. Ou en tout cas, il prenait le départ sans être à 100%. Donc c'était le premier grand test de grandeur nature. Je pense qu'il a beaucoup appris, au même titre que Romain Grégoire.
Ouais, qui finit un peu plus derrière.
Mais vu son profil, c'est pas forcément étonnant. Ouais. Et en même temps, c'est encourageant parce qu'il a mené une équipe Groupama FDJ sur toute une semaine. Et c'est aussi des repères pour l'avenir. Mm. Il s'est testé en haute montagne. Je ne suis pas sûr que ce soit... En revanche, ça, c'est un débat beaucoup plus profond sur l'orientation de la future carrière de Romain Grégoire. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait tant de choses à gagner de se mettre à la montagne.
Oui,
c'était un peu le même débat qu'on avait eu il y a 3-4 ans avec Cosnefroy quand il commençait à perfer. Est-ce qu'il peut un peu travailler la montagne, etc. Non.
C'est vrai qu'on l'attend entre parts. Bon, Henrik Maas, 12e quand même. Je pensais qu'il était encore plus loin. Magnus Sheffield, j'ai mis 16e. Ça grimpe un petit peu. Ouais, Magnus, il faudra faire attention à l'avenir parce qu'il est très jeune. Tu veux voir quoi, Jérémy? Dis-moi. Tu veux voir un petit truc, un petit classement
Non, je cherchais quelque chose pour lequel rebondir. On n'a pas beaucoup parlé de Lennart Kebna qui fait un joli top 10. Oui. Attention à Piganzoli. Si t'as
des souvenirs. C'est pas la type qui nous a vendu Piganzoli.
Si t'as des souvenirs un petit peu de brillants commentaires du Tour de l'Avenir, tu dois t'en rappeler. Top 20, écoute, tout le monde n'est pas Isaac Del Toro. Hein,
mais donc, bon, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on a fait le tour. On a été jusqu'au bout, messieurs. On va pouvoir gentiment se défier parce qu'on est que tous les deux. Donc, est-ce que
t'as
prévu un petit duel?
Je m'adapte. Hein.
Bon, bah, c'est vrai que t'es facile, toi aussi. Tout le monde se vante aujourd'hui.
Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
Oh, j'ai pas compris la question, c'est...
J'essaie d'être meilleur que la dernière fois.
Alors, bien sûr, le chat peut jouer, hein.
Oui, bien sûr. Alors, juste, il faut me dire, parce que moi, j'ai vu sur le chat. Est-ce que tu vas avoir vu sur le chat pour donner des...
Ouais, vas-y, on fait ça.
Attends, attention.
On va tout débrancher. Nouveau format aujourd'hui.
Oula.
Eh ouais, nouveau format, un format qu'on n'a jamais fait.
QCM.
Il est là, le chat. Hein.
Je sais où est le chat.
Oh, excuse-moi, pardon. Hein.
Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire deviner des coureurs. Il y en a 8 au total, avec des indices. Je vais égrener des indices. Ah. Il y aura 5 lignes d'indices, et à chaque fois, on perdra un point. C'est-à-dire que si vous trouvez le coureur après le premier indice, vous marquez 5. Si vous le trouvez après le dernier indice, vous marquez 1.
Très bien.
Vous avez, tous les deux, le chat, évidemment, vu qu'il y a
plein de monde. On n'aura qu'une réponse.
Deux réponses par personne.
On peut pas sur, donner sur, par indice. Sur les cinq indices.
Vous avez deux réponses par coureur, donc sur les cinq indices.
Okay.
En sachant que nous sommes sur une semaine de course. Semaine de Milan.
San Remo.
Turin.
Ah là 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 là. J'en étais sûr, t'es toujours aussi fourbe là, Milan-Turin. Je crois qu'il allait dire un Grand Prix de Denain.
Mais en plus, Milan-Turin, c'est fourbe parce que c'était autrefois une course de.
Ouais,
une course,
Exactement. Et je vais vous faire deviner. Eh bien, tout simplement, des anciens vainqueurs de Milan-Turin. Ouais, donc, il y aura un petit peu de tout, principalement du 21e siècle, mais il y en a un qui est un petit peu plus ancien. Donc,
Après, c'est facile pour les mecs du chat, ils mettent Milan-Turin à la page PC.
Voilà, c'est pas... ne trichez pas.
Anthony aurait été avec nous, je pense qu'il aurait gagné largement ce quiz.
Oui, s'il vous plaît, ne trichez
surtout
pas, parce que ça ne... ça ne vaut pas la peine de tricher.
Très peu d'enjeux.
Voilà, est-ce que le chat on ne trichera pas gagner, si alors Fricadel dit on ne trichera pas, donc je vous crois.
Ouais.
Moi, voilà.
Dans ce cas-là.
Allez, c'est parti.
Allez.
Premier coureur, c'est le plus ancien.
Super.
Premier indice, j'ai gagné au 20e siècle, j'avais un frère dans le peloton. Deuxième indice, je suis double champion national en 2000 et en 2008. Je suis également vice-champion du monde en 1999, derrière Oscar Fréré.
Oh, c'était sûr.
En 1999, j'ai aussi fait deuxième de Paris-Nice, top 10 du Ronde, top 10 de Liège-Bastogne-Liège et top 10 du Lombardie. J'ai effectué presque toute ma carrière chez Rabobank, puis Gerold Steiner.
Stefan Schumacher ?
Non. Dernier indice, mon seul podium sur un monument...
Descartes ?
Non. Et Milan-San Remo en 2002, je suis suisse. Et mon nom commence par la lettre
Berg.
Z, c'est Marcus Berg.
T'as de
la chance parce que si t'avais dit Betzberg,
ouais.
Je te l'aurais refusé. Un point pour Johan Tritz.
Ouais, bon, demi-point. Parce que j'en ai choisi un des deux.
J'ai fait au hasard.
C'était, je pense, le plus dur. Ouais. Celui-là n'est pas simple non plus. Premier indice, je suis retraité depuis la fin 2008 et Milan-Turin 2005 est la dixième et dernière victoire de ma carrière.
Super.
Deuxième indice, je suis italien. Et j'ai commencé ma carrière chez Polti. Troisième indice. Je suis connu pour ma participation au train d'Alessandro Petacchi chez Fassa Bortolo, puis
Baldato.
Chez Milram. Baldato, c'est une mauvaise réponse.
Je n'ai rien. Le chat non plus ?
Il n'y a pas une proposition. Il y a eu Jalabert tout à l'heure, on pense bien, mais c'est pas bon. Quatrième indice. Avant Petacchi, je faisais le train de Cipollini chez Seiko.
C'est sûr.
La type 10, ça rigole moins, Johan Tritz. Oui, mais bon, Johan Tritz, ça a quand même un point.
Oui, oui, mais c'est parce que j'ai perdu tous les...
Dernier indice, et celui-là va vous faire trouver. Je suis l'homonyme de l'un des meilleurs entraîneurs italiens de l'histoire du football.
Alors,
Un entraîneur, alors qu'il n'entraîne plus aujourd'hui, mais qui est hyper connu, qui anime maintenant, je crois, des émissions. Il doit être consultant à la télé italienne.
Ah ouais. Meilleur, mais attends.
Allez, je vous donne les initiales du coureur, pas de l'entraîneur. Le coureur, c'est FS.
Sabatini ?
Non.
Staccarato.
C'est le podcast des inventions. Bon, il n'y a personne sur le chat pour trouver Fabio Sacchi.
Alors là, non, j'aurais pas. J'étais sur Mirko Celestino, mais lanceur, je n'avais pas.
On en reste à 1-0 pour Johan.
Ouais,
premier indice. J'ai gagné un monument en Italie. Je suis européen, mais pas italien.
Oui, c'est bien.
Deuxième indice, j'ai aussi gagné le Tour des Alpes, le Tour d'Olin et le Critérium international. Troisième indice, je ne cours plus.
Thibaut Pinot ?
Depuis quelques mois.
J'allais le dire, bien joué Théo.
Thibaut Pinot, 3 points.
Ouais, 3 points, merci.
Ah, j'allais le dire,
3 points
bien joué.
Pour Théo.
Putain, j'ai hésité, j'aurais pas dû.
Je suis italien et j'ai gagné une classique de la Coupe du Monde en 2003.
Existait encore la Coupe.
Deuxième indice, j'ai couru 9 ans à la Mapei.
Oh, c'est beaucoup de monde.
Troisième indice, j'ai gagné une étape du Tour en 1998, donc j'ai pris la 8e place et j'ai fait encore au mieux au classement général du Tour en 99.
Pas facile.
Quatrième indice, j'étais coéquipier de Jan Ullrich sur les Tours 2004 et 2005.
Il est italien ?
Chez T-Mobile, il est italien.
C'est Noé ?
Non, pas du tout. Bartoli, c'est pas bon. Mes initiales, ces derniers indices sont DN.
Nardello.
Nardello, le point pour Théo.
J'avais commencé le prénom.
Non,
Nardello.
Il n'y a pas de VAR ici. Il n'y a pas de Rémi. On ne peut pas appuyer sur le bouton.
Mais il y a qu'à dire Nardé aussi. On n'en parle plus.
Ça fait un point de plus pour Théo. 4-1-0. Attention, nouveau coureur. Nouveau coureur. On doit aussi.
Il est bien ce format.
Ouais, il est pas mal. Ça fait réfléchir. C'est assez rare.
Oui, c'est pas la.
Plus Anthony, hein, je te le dis. Hein.
C'est pas la norme dans ce podcast. Par contre, le chat aujourd'hui, c'est une catastrophe. Hein. Tu vois qu'il n'y a pas.
Ils sont meilleurs sur Twitter.
Allez, on repart une quinzaine d'années en arrière. On cherche un coureur qui est à la retraite.
Une quinzaine d'années en arrière encore.
En arrière. Non, par rapport à aujourd'hui. Je suis à la retraite depuis la fin de saison 2009 et ma dernière équipe Pro Tour était la Milram. Vous pouvez tenter, hein, y a des points en jeu.
Oui.
Deuxième indice, je suis espagnol. Le ça veut dire passe à la suite. Passe à la suite.
Ouais, franchement,
ton indice, c'est de la merde. J'ai couru chez Lampre et Cofidis, entre autres.
Astarloa,
champion du monde et vainqueur de la Flèche Wallonne 2003.
Ah, bravo Théo, pour l'instant il mérite.
4 et 3 font 7. Il reste 3 coureurs, donc il reste encore du temps, mais il va falloir tenter. Hein. Ouais, il va falloir essayer d'être offensif. Ce coureur-là, il n'est pas facile.
Ah bah, en plus,
j'ai fait 4e de Liège-Bastogne-Liège en 2014.
En 2014
oui. Je suis à la retraite, mais j'ai un homonyme dans le peloton actuel.
Diego Rosa ?
Non.
Van Aert ?
Non.
Des trucs.
Je savais pas qu'il y avait un.
Non, mais je sais pas, il y a plein d'équipes belges.
J'ai terminé ma carrière en 2015 avec une suspension pour un contrôle positif à l'EPO en 2012. La dernière proposition, c'est Bartoli. C'était deux coureurs derrière hein, dans le chat. Nouvel indice, je suis passé chez Once et chez Katucha.
Tiens, c'est bizarre.
Je répète tous les indices, il y en aura encore.
Ouais, parce que là,
J'ai fait 4e de Liège-Bastogne-Liège en 2014. Je suis à la retraite, mais j'ai un homonyme dans le peloton actuel. C'est ça peut-être le plus gros indice. J'ai terminé ma carrière en 2015 avec une suspension pour un contrôle positif à l'EPO dès 2012. Je suis passé chez Once et chez Katucha. Caruso, bonne réponse de la team. Ah. Gianpaolo Caruso.
Oh là, franchement.
Le dernier indice, c'était mon homonyme, court chez Bahreïn et monté sur le podium du Giro.
Ça va, ça s'en aurait pu.
Non, ouais.
Ok.
Ça fait combien de points pour le chat ? 2 points pour le chat, 7-2-1. Johan Tritz est en queue de peloton.
J'avais bien commencé, j'ai eu un petit retard après.
Allez, pour 5 points, premier indice, je suis italien et je suis monté sur le podium d'un monument.
Ouais. Pas beaucoup, hein.
Après, il y en a qui ont peut-être besoin de plus tenter que d'autres.
Oui, mais bon, là c'est quand même compliqué.
Deuxième indice, j'ai couru dans une équipe française.
Bah, Diego Rosa.
Diego Rosa, cette fois-ci, c'est bon. Ça fait 11 pour Théo, qui assomme le quiz.
Allez, on joue tout sur celle-là.
Et je vais aussi donner le point au chat qui a répondu à ça.
Oui, vas-y, repense-moi. Là.
Je suis désolé. Alors, je regardais ma fiche, donc je ne sais pas à quel moment ils ont donné, mais il y a deux Rosa, donc je vais donner les points aussi au chat.
Rosa, bonheur.
Ce qui fait, bravo, ce qui fait 11,
Rosa, malheur pour moi.
6 à 1.
Oui, bon,
je triple les points sur la dernière. Ouais. C'est évidemment complètement
quoi
faux.
Bah, si, vas-y.
Ah. J'ai gagné Milan-San Remo, en plus de Milan-Turin.
Et italien.
Mais je ne suis pas italien. Tu vois, mauvaise langue.
Ah ouais,
eh oui.
Bah là, c'est plus facile. Enfin, plus facile.
Okay. T'as rien à proposer ?
Possibilité. Si. C'est Kwiatkowski.
Bah, c'est pas bon. J'ai 10 étapes sur les grands tours, mais aucune sur la Vuelta.
C'est sûr que. Christophe ?
C'est pas Christophe, c'est pas Cavendish pour la Tib. Et c'est Démarre. La bonne réponse vient de Samy Charnaud. Démarre, effectivement.
J'étais excellent.
Et ça fait 5 points, et ça fait une égalité entre le chat et Théo. Bah, on donne les points aux deux. On donne les points aux deux.
Moi, de toute façon, je n'ai pas compté depuis le départ, donc on dit que tout le monde a gagné.
Ah bah moi, j'ai compté.
T'as
il y a
un bonus. T'as pas un bonus
mais j'en ai pas. J'avais pas prévu.
Alors, normalement.
Non,
au pire, moi, je suis arbitre.
Normalement, la dernière question prévaut. Mais j'ai pas envie de.
Si t'as cherché un nouveau vainqueur, tu l'improvises.
On va chercher. On improvise une question.
Tu peux la trouver.
Oui, bah merci. Je connais un peu le. Pour ça qu'il date.
Ordinateur, Jérémy, tu vois. Donc,
Milan-Turin. Tac, tac, tac.
Attends, je trouve l'année. Et comme ça, c'est le premier qui trouve le vainqueur. Je dis une année au hasard.
Ouais, mais ça va tomber sur une année qu'on a déjà dit.
C'est pas grave. On verra.
Vas-y.
Laisse-moi, cher ami. C'est mon émission. Je fais ce que je veux.
L'autorité du titre. Déjà, il moleste les chroniqueurs sur le groupe.
Jacques, nous laisse
je veux qu'il
nous
trouve
laisse
le vainqueur 2003. C'est bon ?
2003, oui, c'est bon.
Ah, bah voilà.
Alors, c'est un coureur italien.
Ok.
Il ne faisait pas partie des réponses, mais il a été cité
en plus
au cours de ce quiz. Il a couru chez Saeco, il a fini chez Milram en 2007. C'est un coureur qui a également gagné le Tour de Lombardie, la Cyclassics, qui a gagné Milan-Turin à deux reprises. Il a débuté sa carrière chez Polti, c'est toujours pas Bartoli, hein, je suis désolé. Polti, Saeco, Domina Makanze, Milram, voilà pour la liste des équipes de ce coureur qui est né à Albenga. Et qui...
Ouais, je
qu'est-ce qu'il a fait un petit peu dans... ouais, il a fait deuxième de Milan San Remo également, ça je vous l'avais pas dit, 13 victoires professionnelles, tout en Italie ou en Allemagne.
J'ai vu le nom, j'y crois pas.
Les initiales, c'est MC. Voilà.
J'y crois pas.
Il a été cité par Johan Tritz.
Oui, c'est pour ça que je dis ça.
J'abandonne. Garrigou, j'en ai aucune idée. Le chat est aux fraises complètement.
Il n'y a plus rien. Encore de
Saeco, un très bon coureur de classique.
Qu'est-ce qu'on peut dire
MC Solar, non, c'est pas ça.
C'est pas MC Solar.
Bon, allez, match nul. C'était Mirko Celestino. On donne les points à tout le monde.
Alors, j'y crois pas quand j'ai vu le nom. Je mérite la victoire parce que je l'avais cité avant.
Bon, bravo.
Match nul. Match nul, ça fait un point pour Théo et un point pour le chat.
Bravo à tout le monde. Vous avez été ridicule sur la dernière alors que moi, j'étais excellent.
tiens, montre-nous comme tu vas être excellent
sur
les paris.
Sur les paris, on verra bien.
Ah, c'est même pas vrai.
Alors, Milan San Remo avec le retour de MVDP Mathieu Van Der Poel qui est donc là et qui est le favori de cette course devant Tadej Pogacar. Je vous donne les codes 3,75 pour les deux. Mats Pedersen à 9, Christophe Laporte 14. Hein, tiens, tu disais qu'il volait en ce moment notamment sur l'estradé. Matej Mohoric à 17, Filippo Ganna à 20, Remco à 20. Jasper Philipsen à 20, Tom Pitcock 25,
Milan,
à 25, Olaf Koy 30, et après c'est Caleb Ewan, Caleb Ewan 40. Alors là, mettez Caleb Ewan, tiens. Et Axel Laurence, alors je vais chercher pour la tique qui demande Axel Laurence en attendant, 125.
Il faut arrêter avec Axel Laurence. Hein. Il l'a dit, je viens pour aider Mathieu Van Der Poel. Hein, donc,
Est-ce qu'il y a du respect ou pas sur le nom d'Axel Laurence qui est mal écrit dans le site de Paris que j'ai trouvé? Ça, c'est honteux. C'est-à-dire que s'il gagne, vu que c'est pas le bon nom, bah, tu gagnes. C'est dommage.
Par contre, s'il perd, tu perds quand même ton argent.
Tu perds quand même ton argent. Théo, sur les favoris que j'ai donnés, peut-être tu en as d'autres, hein, mais qu'est-ce que tu nous donnes? Peut-être un podium, tu n'es pas obligé de donner le vainqueur, un petit truc, un petit tip, ce que tu peux donner aux autres?
J'ai du mal à voir autre chose qu'un duel Van Der Poel-Pogacar. Évidemment, on s'interroge sur la tactique adoptée par Pogacar parce que je pense que dans la filière explosive, même si c'est le retour de Van Der Poel, il est un cran. Enfin, en tout cas, il n'arrivera sans doute pas à enlever de la roue Mathieu. Évidemment, les attaques dans la Cipressa, c'est l'éternel débat. Ils ont essayé deux fois, en fait, 2022-2023.
J'ai vu sur Twitter, c'est quoi la côte de quelqu'un qui attaque avant
Non pas qu'ils ont essayé dans la Cipressa les deux dernières années, mais ils ont essayé deux tactiques différentes en durcissant dans la Cipressa et en faisant peut-être une attaque un peu plus explosive en 2023. J'ai envie de partir sur Jonathan Milan, j'ai envie de revoir un sprint.
Ok. Pourquoi pas, c'est... Par contre, il faut qu'il tienne. Mais... Oui,
c'est vrai. Ouais, Milan.
Et il nous fait un truc. Je vois non, pas le duel.
On me demande un truc rapide. Je vais rapide.
Non, mais j'ai pas compris parce que je ne vois pas autre chose que Pogacar, Van Aert, donc Milan.
Parce que j'ai envie de jouer le.
Ah, t'as envie de gagner de l'argent.
Voilà.
Coquin.
D'ailleurs, on me demande la cote d'Alaphilippe. Elle est à 80. Voilà.
Ouais.
Bon, regardez-la. Moi, je ne la mettrai pas non plus. Mais encore moins que Cadet.
Non, mais en effet, il y a deux paris dans mon pari. C'est-à-dire le pari un peu de.
Ouais, du vainqueur,
outsider et le pari un peu plus lucide.
Je vois aussi un duel Pogacar-Van Der Poel qui auront du mal à se départager. Donc, je vais jouer Matej Mohoric qui tire les marrons du feu et qui profite d'un marquage au sommet du podio pour faire une descente titanesque comme il y a deux ans. Et le doublé pour Matej Mohoric à 17. Ça, c'est pour gagner de l'argent. Sinon, effectivement, je vois mal comment.
Et puis, rappelez-vous comment Stuyven a gagné une année. À la fin de la descente, ça se regardait, boum, parti faire les trois bornes. Un mec comme Søren Krag Andersen, comme Wellens.
Krag Andersen, à voir quel sera son rôle autour de ses leaders. C'est difficile d'envisager un scénario parce qu'on se doute quand même que tout jouera dans le podio. Alors, est-ce que Pogacar sera suffisamment fort pour emmener Van Der Poel avec lui? Et si c'est le cas, est-ce qu'il a intérêt à l'emmener au sprint ou est-ce qu'on risque de se regarder? Est-ce que Van Der Poel va venir décomplexer en se disant « j'ai déjà gagné l'année dernière » ou est-ce qu'il aura cette petite pression de courir avec le maillot arc-en-ciel? Est-ce que Philipsen est capable de s'accrocher? Est-ce que Laporte peut basculer pas trop loin pour rentrer dans la descente? Est-ce que Mohoric va encore faire le kamikaze? Tout ça, on ne sait pas. Donc, il y a énormément d'inconnus. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en termes de niveau physique, Pogacar, Van Der Poel seront très certainement un peu au-dessus.
Après, j'ai vu qu'il y avait Van Der Poel qui revient. Alors, c'est ce que je regardais justement.
Moi, je
m'interroge
pas.
Mais
moi, je m'interroge pas sur Van Der Poel, vu comment il se prépare à Londres. Rappelle-toi qu'il avait fait sa rentrée il y a deux ans sur Milan San Remo. Il était là, il fait 5. Mais il était là. Hein.
Alors oui, il y a marqué Remco, mais sur les listes provisoires, il n'est pas dedans.
Ouais, c'est pour ça,
j'ai pas vu de déclaration. Peut-être qu'ils ont des infos à l'intérieur au dernier moment, Remco, ce qui s'aligne.
C'est pour ça que je suis surpris de le voir à 20.
Non, mais c'est vrai que Pogacar, hors Paris-Roubaix, c'est peut-être la classique qui est la plus difficile à gagner pour lui.
Oui.
Parce qu'il n'a pas le terrain pour durcir autant que sur un Stradé, sur un Liège. Donc...
Et un Pedersen.
Oui, bah
tiens, parce qu'il s'est préparé notamment à rouler en montagne, etc.
Il fait pas d'altitude, par contre, Pedersen.
Non,
c'est
mais
quand même
par
la
contre,
différence.
Il a fait des gros tempos lorsque ça montait un petit peu. J'ai l'impression qu'il Pedersen a essayé de...
est un candidat crédible. Alors après, par rapport à Pogacar et Van Der Poel,
une
montée explosive, si on met les watts dès le bas, il aura peut-être du mal à basculer. Mais Milan-San Remo, tu bascules à 10 secondes, t'as pas encore perdu. Hein.
Pour moi, c'est l'échelon Laporte.
Ouais. C'est l'échelon Laporte. C'est aussi peut-être même l'échelon Mohoric. Quand il gagne, il est pas en premier.
Ghana, j'y crois moins, là, parce que ça fait partie des favoris, mais Ghana, avec ce qu'il a montré depuis le début de la saison, il n'est pas aussi fort sur les chronos, on a l'impression qu'il est un peu moins aérien. Moi, par contre, je mettrais bien si Pidcock est là, parce qu'encore une fois, c'est une liste provisoire. S'il est là, je pourrais mettre un podium de Pidcock, par exemple, qui est le seul à pouvoir accrocher, je ne sais pas moi.
Dans la descente, il n'y a que lui qui peut accrocher Mohoric.
Pogacar, décrocher une attaque de Pogacar et Van Der Poel, comme c'est quand même quelqu'un qui.
Parce qu'il faut aussi se mettre
fort là-dessus.
À la place des rivaux de Mohoric, de Pidcock, qui eux n'ont pas grand-chose à perdre dans la descente, c'est leur terrain de chasse. Tu es dans la tête de Mathieu Van Der Poel, tu te dis j'ai toute la saison de classique, moi j'ai déjà gagné l'année dernière, est-ce que j'ai intérêt à prendre tous les risques pour me mettre au tard. Tu te mets dans la place de Pogacar, tu te dis moi j'ai Liège-Bastogne, j'ai le Giro, j'ai le Tour de France, si je me prends une boîte là, est-ce que je fais pas une croix sur ma saison? Donc tu as psychologiquement
ils sont plus prenables dans les descentes que dans les montées.
Bah oui, c'est aussi ça. Donc il y a peut-être intérêt à jouer son va-tout ici. Maintenant, si dès le début, arrivé au cerf, il y en a un qui met une cacahuète et qui prenne 15-20 secondes d'avance sur tout le monde au sommet, c'est terminé.
Oui. Bon, bah alors on a entendu vos avis. Donc moi je mettrais une petite pièce sur Pidcock, un podium.
Puis côté français par Laporte.
Laporte. Et la Philippe qui a 80. Je regarde un petit peu ce qu'il y a, mais derrière. Il y a Axel Laurence qui est mieux classé. Cosnefroy, il. Il y a Brian Coquart et Axel Zinglet, qui est dedans
aussi.
Ouais,
j'aime bien Axel Zinglet.
Arnaud Démare aussi.
Après, là, on est pas au premier échelon.
Anthony Purgis, qui a fait podium de Milan-San Remo. Mais bon, Romain Grégoire. Ouais. Mais encore une fois, la liste, très provisoire.
Ils sont invités, Total.
C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'ils mettent Turgis dedans. Mais
j'ose espérer qu'ils sont cotés.
Ça serait incroyable quand même. Je crois que. Mais oui, mais il n'y a pas Total Energy. C'est-à-dire que le site de Paris donne Turgis qui vient en candidat libre. Comme pour
candidat libre. C'est le bac. Milan-San Remo, c'est devenu le bac.
Non, mais il y a Paul T, il y a Tudor, Unox, Bardiani. Il n'y a pas Total Energy. Bon, vous pouvez mettre, de sûr, Remco, Turgis, mettez les deux.
Et Wout.
Et vous êtes sûr de gagner beaucoup d'argent. Ok. Non, mais Christophe Laporte, je suis en train de regarder. Romain Grégoire, il n'est pas noté sur la liste provisoire, donc ça aussi, oublié totalement.
Il n'est même pas dans l'équipe, il me semble.
Il y a peut-être Marc Padoun. Et ça
c'est important. Par contre,
ça, c'est important.
On va s'arrêter là, j'imagine, c'est fini.
Oui, c'est fini.
Non, je suis quand même un peu outré qu'on fasse Milan-San Remo et qu'on fasse pas le trophée Alfredo Binda. Ça me déçoit de ta part.
Eh bien, allons sur ce que j'ai dit.
J'avais hâte d'avoir le pronostic de Théo.
J'aimerais bien les manger. S'il vous plaît.
Jérémy,
j'ai débranché mon casque. T'entends plus.
Ah, t'entends plus. Voilà, c'est bon. Est-ce que tu entends?
Donne-moi un petit peu les paris, les cotes. Fais ton travail.
Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais peut-être qu'on peut trouver.
Donne la start list déjà.
Je te donne la start list. Juste pour le plaisir. Il y a personne. Il y a quasiment personne. Il y a Puck Peters pour Phoenix de Kenin qui est noté.
Puck Peters très très en forme. Hein.
Balsamo. Je te donne. Il y a pas grand. FDJ Suez. Il y a rien du tout sur la liste provisoire. Donc débrouille-toi avec ça. Qui tu mets? Tu mets quelqu'un de SD Works. Il y a Marlène Rosser. Voilà. C'est tout ce qu'on
allez, go pour Marlène Rosser. C'est avec Marlène Rosser au départ.
Van Androy. C'est
Van Androy qui avait gagné. Je jouerai SD Works quand on connaît ça.
Merci.
Une belle intervention en tout cas.
On viendra un truc vendredi, juste 5 minutes en mode les paris pour Alfredo Binda. Malheureusement, le cyclisme féminin n'est pas dans les sites de paris.
Allez, à la soupe.
Ouais. Bon appétit à tout le monde. Merci. On a les célébrations, nous.
On va vraiment
manger.
Et la bise à Francky, quand même.
Et la bise à Francky, bien sûr. Oui, bah, écoutez.
On rappelle quand même que l'antenne est libre pour tous ceux qui veulent
oui,
intervenir.
Bien sûr.
Et malheureusement, les débats Twitter n'ont pas été reproduits aujourd'hui. Ça aurait été avec un grand plaisir qu'on aurait débattu autour de Evenepoel, qu'on apprécie tous. C'est un super coureur, mais ça n'empêche pas d'avoir un point de vue objectif sur ses performances.
Tout à fait. Et sur tous les coureurs d'ailleurs de tout le peloton, sauf Marc Padoun, bien sûr, qui est une chasse gardée. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux encore à discuter.
J'ai cru qu'il allait dire, sauf Marc Padoun, qui est une chèvre.
Où il va. Merci donc à tout le monde.
Allez, ciao, ciao.
Vous avez gagné le quiz. Égalité, mais vous avez été très fort. Allez, ciao tout le monde,
et
à la semaine prochaine.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.